Et suite à un petit retard du premier invité de Laurent Poultier du Ménil, je vous propose d'écouter un court extrait de La nuit sur la montagne de Borodine.
J'ai découvert plein de trucs. Chers auditeurs de Radio Côte d'Azur, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau libre journal de la vie française. Ce sont les aléas du direct, merci à la technique. J'ai le plaisir ce soir de recevoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Laurent Poultier du Ménil.
Alors, c'est un vrai plaisir de vous accueillir, cher Nicolas, puisque vous venez, c'est tout neuf, je l'ai dans les mains. Il est sorti hier ? Il était inauguré hier ? Aujourd'hui ?
Demain.
Demain. Ah, bah,
je suis en
toute première.
Vous êtes la première émission.
Nicolas Dupont-Aignan, 2027, La liberté ou la mort, aux éditions Fayard. Alors, mon cher Nicolas, j'ai passé ma journée sur ce livre. Ce fut un vrai plaisir. Je me suis dit, je vais pas découvrir grand-chose. Mais si, j'ai découvert plein de choses. Ce qui est très agréable, c'est que c'est à la fois autobiographique. Vous vous livrez, mon cher Nicolas, quand même. On découvre un certain nombre de choses, d'anecdotes, de choses un peu tristes, hein, mais de trahison, de plein de choses. Ça se lit à la fois comme un livre politique et je dirais presque comme un roman parfois. Voilà, c'est très agréable à lire. Quand je dis roman, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui sont de trahison, de tas de choses que voilà, on se dit c'est pas possible. Ça donne une mauvaise image de la politique parfois, j'avoue.
Mais fallait dire les choses.
Oui.
Si vous voulez, j'arrivais à un âge. Il y a une expérience politique où je me suis dit, ça ne sert à rien d'écrire un livre pour faire semblant.
Oui.
Et je me suis dit, j'ai commencé ce livre après ma défaite législative de 2024, et puis dans une période de réflexion sur le sens de mon combat. Et je me suis dit, je vais écrire ce que j'ai sur le cœur. Pas dans un sens de critique, dans un sens de rebond. Et pas pour moi d'ailleurs, mais
oui,
pour mon pays.
C'est...
Parce que 2027, la liberté ou la mort, c'est vraiment, je suis tellement convaincu qu'on ne peut pas continuer à subir ce qu'on a subi, qu'il fallait dire ce qu'on avait subi, raconter moi ce que j'ai subi,
c'est
pas
lourd.
Personnellement. Mais
il y a quand même,
oui,
pas mal de choses.
Oui, mais comme toute personnalité politique, mais ce qui est le plus grave,
c'est quand même assez riche.
Mais j'ai quand même subi ce que les Français ont subi, c'est-à-dire 20 ans d'infamie politique, de désastre politique. Et on se demande jusqu'où on va tomber. Et j'ai voulu me servir de cette analyse pour tracer un chemin de redressement. Parce que, comme me disait mon institutrice quand j'étais petit, un problème bien posé est à moitié résolu. Et donc je crois qu'il faut bien poser le problème français pour pouvoir le résoudre. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre, poser les problématiques et puis surtout donner une espérance, c'est-à-dire dire comment on va s'en sortir, et on peut s'en sortir collectivement, avec des exemples étrangers, des exemples locaux, parce que j'ai essayé aussi de...
Oui, l'histoire des référendums locaux qui ont
passé
très
à la
bien
suite,
marché
quoi. Voilà, il s'agit pas
ailleurs,
de dire, c'est pas simplement un livre de souvenirs, il y a une première partie de souvenirs, et puis après on attaque...
Elle est mélangée,
mélangée
avec des propositions, ce qui est beaucoup plus agréable à lire, voilà, ce qui est très agréable.
Alors, des petits chapitres.
Oui, je suis accompagné par Sarah, bonsoir Sarah.
Bonsoir.
Sarah Gentil, voilà, qui va m'accompagner également pendant toute l'émission. Alors, tout d'abord, moi je voudrais avoir des nouvelles de Nicolas Dupont-Aignan, qu'est-ce qu'il devient ? Il a été élu, j'ai vu, au premier tour, avec un score de dictateur, encore une fois, voilà, près de 80%...
Alors, au municipal.
Des municipales,
oui. Il y a eu la défaite, comme quoi dans la vie politique, ce sont les montagnes russes.
Oui.
Il y a eu la défaite des législatives de 2024. Et puis, comme si les électeurs avaient voulu se faire pardonner, il y a eu une magnifique victoire municipale à 80%. Enfin non, 79-95. Deuxième de France après David Listard,
oui,
qui m'a devancé d'un point à quatre.
Ouais.
Mais ça fait plaisir pour une ville de 30 000 habitants. Ça fait plaisir, oui, parce que ça prouve que quand on fait bien le boulot, je crois, et c'est pas moi tout seul, c'est mon équipe, c'est Olivier Clodon qui a été maire pendant l'interdiction du cumul de mandat. Moi, j'ai été maire 22 ans, après Olivier Clodon 9 ans, et il est à nouveau mon premier adjoint. Et ça prouve que quand on s'entend bien, qu'il y a du bon boulot de fait, une belle équipe, et que, bah voilà, on a divisé la dette par deux quand l'État l'a multiplié par 10. On est dans les 10 villes les plus sûres de France, hier, dans l'Essonne.
Oui.
30 000 habitants, ça fait plaisir. Voilà, je ne vais pas vous dire que je ne vais pas bouder mon plaisir parce que ça a été un... Voilà, tout le monde disait, oui, il va être péniblement réélu, c'est fini. Voilà, on a voulu m'enterrer, ça fait toujours plaisir de ressusciter.
Un très beau score. Alors, pourquoi avoir voulu reprendre la mairie et est-ce qu'on aura un Nicolas qui va briguer un mandat pour les législatives ?
Non, moi j'ai été franc avec les électeurs. J'ai dit, la mairie m'a tellement manqué pendant ces 9 années que je veux reprendre ma tâche de maire parce que c'est là, c'est ma quille d'un bateau. C'est là ce qui stabilise le bateau.
Mmh.
Vous pouvez, vous avez, moi j'ai un tonnel de concret, de vérité, et je pense que j'ai des rapports beaucoup plus sains, beaucoup plus vrais avec les habitants de ma ville et dans l'action locale, plutôt qu'à l'Assemblée qui est devenue une espèce de je sais pas quoi, de... Bref. Et donc j'étais beaucoup plus heureux de reprendre la ville et j'ai dit que le maire Olivier Clodon se présentera aux législatives parce que moi j'y ai été 27 ans et que je pense que la ville est plus épanouissante et je suis plus heureux comme maire de ville. Et puis ça ne m'interdit pas du tout un destin national si les Français le veulent, mais ça me permet au contraire d'être beaucoup plus concret dans mes propositions pour 2027.
Sénat ?
Non, pas du tout. Non. Moi, j'ai voulu redevenir maire parce que j'avais envie de servir mes concitoyens et de continuer mon travail sur le terrain. Et parce que je pense, encore une fois, comme d'ailleurs d'autres, Édouard Philippe est maire du Havre, Lisnard est maire de Cannes, Robert Ménard est maire de Béziers, ce que l'on fait au niveau local inspire obligatoirement notre ambition pour la France.
Mmh.
Donc ce n'est pas incompatible. Et en tout cas, je suis plus heureux. Donc je pense que dans la vie, il faut à un certain âge essayer d'être heureux.
Alors,
et j'espère que les habitants aussi.
J'ai eu le plaisir hier d'assister au lancement de votre livre, qui finalement a réuni pas mal d'acteurs importants de la droite. J'ai vu Sarah Knafaud, Éric Zemmour, Florian Philippot, il y avait un grand nombre. Personne au RN, personne des Républicains.
Écoutez, Jordan Bardella s'est excusé qu'il ne pouvait pas venir.
Oui.
Éric Ciotti était retenu à Nice.
Oui.
Voilà, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. J'ai voulu...
Ce qui était assez impressionnant, c'est d'arriver à réunir, justement, la droite autour de vous.
Oh, ce n'est pas autour de moi. Ils sont venus gentiment pour me saluer. Et puis, moi, ce qui est important pour moi, c'est toujours la même chose. Proposer aux Français une sortie de crise réelle, repartir sur des bases saines, et essayer d'avoir toujours des bonnes relations avec tout le monde, parce que personne ne gagnera seul. Personne ne gagnera seul. J'en suis convaincu. En 2017, je pense avoir montré la voie, en soutenant Marine Le Pen au second tour. Aujourd'hui, moi, je présente un projet politique, parce que c'est ça l'enjeu. Et ce livre, j'ai voulu dire aux Français que si on ne sortait pas de l'Union européenne au plus vite, eh bien, la France mourrait. Et sortir de l'Union européenne, c'est du bon sens, c'est pas un risque. À la condition, bien sûr, et c'est ce que je présente dans le livre, que l'on ait un projet national fort de redressement, d'effort, parce que sortir pour se s'affadir, ça sert à rien, pour s'affaisser, et que l'on parle aussi aux autres peuples européens pour rebâtir une Europe des nations libres, gaulliennes, et des projets concrets. Sortir, pour moi, c'est pas finir seul.
Oui, non,
sortir, c'est reconstruire.
Vous expliquez d'ailleurs.
Et c'est très important.
Ce qui est intéressant,
parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus.
Oui, vous expliquez votre façon d'en sortir, entre guillemets.
Voilà.
Mais alors, c'est en sortir, vous l'expliquez, en n'étant pas tout seul, évidemment. Est-ce que c'est en sortir pour reconstruire quelque chose avec un autre nom, ou finalement, c'est pour modifier les choses complètement de l'intérieur ?
Non. Je suis arrivé à la conclusion, ce que j'explique dans ce livre.
Oui.
Après avoir longtemps plaidé pour une réforme de l'Union européenne, en pensant qu'on pourrait renégocier les traités, j'ai au fil du temps évolué, pour une raison très simple, c'est que l'Union européenne est devenue tyrannique. Quand je dis tyrannique, on l'a vécu au moment de la crise Covid, on le vit avec les lois liberticides, on le vit avec l'immigration massive qu'elle organise, on le vit avec la guerre vers laquelle elle nous précipite. Et donc, à partir du moment où l'Union européenne n'est plus seulement une menace pour notre souveraineté, mais nous entraîne au suicide collectif, et on le voit actuellement, il y a un devoir de s'en aller au plus vite. Mais ce n'est pas s'en aller pour rester obligatoirement seul. Je prends l'image simple. Pour moi, l'Union européenne aujourd'hui, c'est une grande tour, un immeuble en copropriété. Les portes sont ouvertes, c'est squatté. Il y a un syndic tyrannique qui est Mme von der Leyen. Et c'est le bazar complet. Il y a un moment, on n'arrive pas à changer le syndic. On n'y arrive pas parce qu'elle joue vous savez, c'est comme les copropriétés qui sont bloquées. Donc, à un moment, il faut déménager, il faut s'en aller. On quitte cet immeuble, mais en revanche, on ne va pas tout seul. On va fonder un lotissement de maisons individuelles. Et bien, dans le lotissement, chacun aura sa maison individuelle, la France, l'Allemagne, l'Italie. Ça n'empêchera pas. On aura notre clôture, c'est-à-dire nos frontières. On aura notre maison, nos lois. Mais ça n'empêchera pas d'avoir des bons rapports et pourquoi pas un équipement commun, une piscine en commun, un tennis en commun, je ne sais pas. Je prends cette image volontairement pour vous dire que j'en ai assez de la caricature toujours qui est faite par ceux qui veulent nous voir rester dans cet immeuble insalubre. Il faut partir, vite. Et ça ne nous interdira pas de travailler avec nos voisins. Et justement, dans le livre, j'explique comment on va partir.
Voilà, vous parlez d'un moratoire. D'un an de l'application des règles communautaires. Bon, à vous expliquer toutes les démarches. Par contre, vous expliquez évidemment qu'il faudra entraîner les autres pays.
Ceux qui veulent.
Voilà. Est-ce que vous irez chercher l'Angleterre ? Je n'ai pas vu ça.
On pourrait, pourquoi pas.
D'accord.
On pourrait. On pourrait même aller chercher la Russie si j'étais provocateur. Et faire la grande Europe de l'Atlantique à l'Oural.
Très bien.
Et la grande alliance civilisationnelle.
On vous en a voulu, hein, j'ai vu là, pour l'histoire de la Russie. Là.
C'est-à-dire ?
Vos propos sur l'Ukraine.
Oui, j'ai fait un.
Ouais, c'était.
On
a vu la violence, ouais, la violence. Voilà, oui. Suite aux propos que vous avez tenus et qui ont été largement amplifiés, déformés, très déformés dans tous les sens.
Oui, mais j'avais raison sur l'Ukraine.
Ben oui.
J'avais raison quand j'ai dit dès 2022 que c'était la plus grave erreur géopolitique, qu'on allait précipiter la Russie dans les bras de la Chine, qu'on allait ruiner notre industrie. C'est un fait. Et aujourd'hui, 3-4 ans après, on voit la réalité. Nous payons notre gaz 4 fois plus cher que la Chine et les États-Unis. C'est la ruine de l'Europe. C'est le chômage de masse. Ouais. Et ils ne veulent pas le comprendre. Alors, bien sûr que... Et ça ne veut pas dire pour autant que je suis pour la Russie à tout prix, loin de là. Je dis simplement que sacrifier le peuple ukrainien pour vendre des armes américaines et pour acheter du gaz naturel liquéfié américain ou qatari, d'ailleurs qui n'arrive plus avec le blocage du détroit d'Ormuz, c'est pas obligatoirement la bonne solution pour nous. Et moi, je n'ai qu'un objectif, défendre la France. Donc voilà. Donc, le temps me donne raison, mais je raconte dans ce chapitre, sur l'Ukraine, ce que j'ai pris dans la figure, oui, parce que j'ai voulu prévenir, avertir.
Ouais. Et comment les médias ont transformé vos propos ?
Je vous rassure, je ne suis pas un agent russe et je n'ai jamais été, je ne serai jamais, oui, et je suis un agent français.
Sans doute. Alors, vous avez dénoncé dans votre livre, il y a tout un chapitre sur l'étau se resserre, vous dénoncez justement l'euro numérique, le tout numérique de l'Europe, et finalement l'actualité vous donne raison, puisque le 15 avril, Ursula von der Leyen avait lancé en fanfare une application européenne obligeant chaque utilisateur à présenter sa carte d'identité pour accéder aux réseaux sociaux. Et on a vu que, là pour le coup, c'est Sarah Gnafo qui vient de dénoncer ça en disant que ça vient d'être piraté. Voilà, que tout a été piraté et que 19 millions de dossiers français seraient désormais en vente sur un forum cybercriminel, état civil, identifiant, de connexion, adresse, numéro de téléphone. Voilà, donc vous dénoncez le tout numérique en disant qu'il est extrêmement dangereux parce que c'est pour nous museler. Et j'aimerais que vous expliquiez un petit peu engendre concernant la gestion des comptes pour les Français.
Ce que j'explique dans la... En fait, mon livre est structuré en trois parties très simples. Démocratie,
oui.
C'est la partie plus... où je raconte le passé.
Comment... On en parlera tout à l'heure.
Voilà.
Oui.
Indépendance, c'est comment notre indépendance a été tuée progressivement. Et l'étau se resserre, c'est la fin de cette partie indépendance. J'explique comment, échouant, comme l'Union soviétique avait échoué, eh bien, plus un système échoue, plus il veut interdire aux gens de le voir. Et donc, c'est comme en Union soviétique à la fin, le communisme. Plus le système échouait, plus le communisme était autoritaire, violent, pour faire taire ceux qui voyaient l'échec. Et ce qui est terrible avec ce qui se passe avec l'Union européenne, c'est qu'ils ont mis en place un certain nombre de règlements qui s'appellent le DSA, Digital Service Act. Tout ça est toujours écrit en anglais, malheureusement. Et qui vise à contrôler les réseaux sociaux, à vous interdire de parler, à freiner les algorithmes des diffusions des informations, c'est-à-dire à mettre en place une dictature à la chinoise.
Et d'ailleurs, vous expliquez que ça a déjà été fait.
Oui, et j'explique que c'est en train de se préparer pour aller plus loin avec l'euro numérique. Mmh. Et l'euro numérique, c'est quoi ? C'est le système chinois, c'est-à-dire que vous ne traversez pas au passage piéton, ou vous dites, vous suivez un site qui n'est pas le bon, ou vous dites que la transition énergétique, c'est du pipeau.
Ou vous prenez trop l'avion, comme vous le mettez.
Ou vous prenez trop l'avion, ou mangez trop de viande.
Ouais.
On pourra à un moment vous couper votre portefeuille numérique. Parce que l'euro numérique, il faut que les auditeurs entendent bien ça. Votre compte bancaire n'est plus géré par une banque. Il est géré directement par la Banque Centrale Européenne. Donc du jour au lendemain, on vous débranche. C'est ce qui se passe en Chine. On vous débranche. Vous ne pouvez plus acheter quoi que ce soit. Votre carte, elle ne marche plus. Parce que aujourd'hui, entre la banque et l'État, il y a une coupure. Il y a seulement en cas de poursuite judiciaire qui peuvent saisir votre compte bancaire, etc. Demain, c'est un totalitarisme qui se prépare. Et puis en plus, ce sont des amateurs, on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les données qu'ils récoltent,
voilà, c'est ça.
Elles vont dans des sociétés, souvent américaines d'ailleurs, des combines, et elles disparaissent. Alors quand vous pensez que la France a confié à Microsoft ses données de santé, quand vous pensez que la France est totalement tenue par des sociétés américaines, bruxelloises, on parle beaucoup de Palantir, c'est extrêmement grave. Voilà pourquoi je mets en garde, il y a en France la CNIL, vous savez, la Commission nationale informatique et liberté, qui a fait des avertissements, mais on a une machine folle qui est en route, avec des gros intérêts derrière, pour cadenasser les Français. Et moi, c'est pourquoi je veux absolument alerter les Français sur cette dérive. Et d'ailleurs, je leur dis en passant, je le dis toujours à mes amis, gardez toujours vos bulletins de paye en version papier, parce que dans 20 ans ou dans 10 ans, dans 5 ans, quand il faudra avoir votre retraite et que le cloud aura reçu un missile ou aura sauté, ben vous verrez comment vous ferez payer vos retraites. Donc gardez tout papier. Ça vous paraît peut-être stupide, réactionnaire, idiot, mais moi, gardez une trace papier.
Alors, moi, je vais revenir maintenant dans l'ordre un petit peu au début de votre ouvrage. Vous faites un état, évidemment, de la Ve République. On a l'impression qu'elle a passé son temps. Et autant dans la page 43 que 91, on a l'impression que finalement, d'après vous, vous dites oui, on peut la réaménager, etc. Mais on a l'impression que finalement, vous avez envie d'une 6e République plus qu'autre chose.
Elle a été complètement dénaturée, défigurée.
Mmh. Ouais, mais là, papa, vous dites qu'elle a fait son temps. Hein. Au fil du temps, a vidé son contenu de notre démocratie.
Le problème, c'est que le général de Gaulle avait donné de grands pouvoirs au président de la République, mais les présidents successifs ont toujours refusé la discipline que s'était obligé le général de Gaulle, qui était d'abord l'intégrité morale et financière, et surtout de consulter les Français par référendum sur les grands choix.
Oui, alors ça, vous en parlez beaucoup.
C'est mon obsession. Je suis obsédé par ça parce que vous pouvez avoir de grands pouvoirs si vous êtes soumis au contrôle du peuple. Mm-hmm. Et le général de Gaulle a fait 5 référendums en 10 ans. Et depuis 2005, ça fait plus de 20 ans, il n'y en a pas eu un.
Il n'y en a pas eu un.
Donc vous avez tout compris. Et le seul référendum qu'il y a eu, ils l'ont trahi.
Oui.
Voilà. Et mon départ de l'UMP de l'époque et ma rupture avec Nicolas Sarkozy et la fondation de Debout la France, ça a été pour moi ce geste abominable de trahison du peuple, puisque les Français avaient voté non, ils avaient eu la conscience de ce qu'allait devenir l'Union européenne. Et la classe politique, parce qu'il n'y a pas que Sarkozy, les socialistes avec lui. Et si vous voulez, ce que j'explique dans mon livre, en racontant toutes ces anecdotes sur Philippe Séguin, sur Fillon, sur Pasqua, sur Chevènement et tout, c'est qu'en fait, la trahison de 2005, qui a été votée au Parlement par l'alliance des UMP et des socialistes, elle préfigurait le macronisme.
Mmh. Très juste.
En fait, ouais. Ça a mis 20 ans. Et ils, aujourd'hui, ils sont tous ensemble, de Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Olivier Faure, toute la clique de droite et de gauche, ils sont tous ensemble parce qu'en fait, ils ont trahi les Français. Et ils ont été marginalisés des deux côtés. Parce qu'à la fin, les Français, quand même, ne sont pas idiots, ils s'en aperçoivent.
Alors, vous avez parlé des référendums, ça me permet une transition assez facile. Vous proposez, vous avez parlé du général de Gaulle qui en avait établi 5, et vous, vous en proposez 5. Mmh. Quels sont-ils ?
Ben, je pense qu'un nouveau président qui arriverait au pouvoir ne pourrait débloquer la France qu'en s'appuyant sur le peuple, sur des sujets fondamentaux. L'Union européenne, comment on en sort ? Un vote. La réforme pénale, comment on surmonte le blocage du Conseil constitutionnel et du politico-médiatique correct. Seul un référendum peut permettre, par exemple, de supprimer les remises de peine, peut permettre de construire 40 000 places de prison, peut permettre d'en finir avec ce politiquement correct insupportable qui nourrit la délinquance et les narcotrafics quand même.
Voilà, vous proposez, je vous lis, appartenance à l'Union européenne, réforme du code pénal, politique migratoire, réforme budgétaire et fiscale, et enfin, révision de la Constitution.
Oui.
Ça m'aurait mérité d'être un petit peu développé, peut-être.
Oui, bah sans doute, mais vous retrouvez dans les chapitres suivants, si je ne me permets, le détail de chacun des domaines.
Oui.
Sur l'immigration, comment on pourrait faire. Et puis, il y a une troisième partie dont vous parlerez sans doute, qui est un exercice de politique fiction. Qu'est-ce que ferait un président souverainiste ? Et là, je précise, alors, par exemple, en matière migratoire, en matière de sécurité, etc.
Et vous allez même jusqu'à donner votre gouvernement idéal dans lequel vous n'apparaissez pas, mon cher... Alors, attendez, je vais le lire. Allez, vous avez parlé, je voulais l'évoquer plus tard.
Alors, il est volontairement provocateur, parce que je me suis dit que ça intéresserait les journalistes.
Absolument. Moi, ça m'amusait.
Voilà, ben voilà.
Évidemment, vous pensez bien.
C'est comme
le
Pavlov,
gouvernement idéal de Nicolas Dupont-Aignan. Alors, fermons les yeux, je vous lis, et imaginons comme un conte de fées la présence autour de la table du Conseil des ministres de Philippe de Villiers, garde des Sceaux, Henri Guénaud aux Affaires étrangères, Arnaud Montebourg ou Marc Touati à Bercy, renommé ministère de la Souveraineté industrielle, ou encore Marine Le Pen ou Jordan Bardella, place Beauvau, Estelle Youssafa à l'Outre-mer, Marion Maréchal à la famille, Jean Lassalle à l'aménagement du territoire, ça m'amusait ça, Michel Onfray aux universités, Natacha Polony, tiens, c'était une bonne idée, à l'instruction publique, ça lui ferait plaisir, Sonia Mabrouk à la culture et Véronique Le Floch à l'agriculture. Georges Kusmanic à la Défense nationale, Didier Raoult ou le professeur Perron à la santé, ça serait merveilleux ça, Jean Branco à la réforme de l'État, Sarah Knafo évidemment au budget, Yamina Amsmal à la recherche et ou encore Malika Sorel aux affaires étrangères. Et enfin, Arnaud Bouglet, et oui, ce cher Arnaud Bouglet, à l'énergie, alors, c'est sûr qu'on n'aura plus d'éoliennes avec lui, et Alexandre Jardin comme porte-parole. Mais il n'y a pas Nicolas Dupont-Aignan dans ce gouvernement.
Oui,
pourquoi il est où ?
Parce que c'est le président souverainiste.
Mais j'ai bien deviné, bien sûr. C'était de la provocation de ma part. Voilà. Bah, écoutez, c'est très amusant.
Bon, alors, il en manque parce qu'Éric Zemmour, bien sûr, à sa place. Il en manque.
Oui, non, mais c'est déjà très amusant.
Et j'ai quand même fait une remarque de précaution.
Oui.
Au début, un peu plus loin, j'ai dit j'espère qu'ils ne m'en voudront pas de les avoir cités, puisque c'est plutôt un hommage à leur talent et à leur
tout
personnalité.
À fait, absolument. Non,
mais
non,
je vais vous dire,
c'est amusant, ça.
J'ai été provocateur, mais les Français, quel que soit l'ordre et quel que soit le président, attendraient cela.
Bah, bien sûr,
et
mais les Français,
que
quelque
les
part, attendent, bien sûr.
Quand est-ce que les dirigeants politiques arrêteront cette espèce de « ma boutique est la meilleure
mm-hmm. »
Voilà.
Bon, il n'y a que des souverainistes hein, là-dedans, quand même.
Ah bah écoutez...
On peut pas...
Je pense, c'est le thème la liberté ou la mort.
Tout à fait.
Si la France ne reprend pas sa liberté, là on est très sérieux, rapidement, elle ne pourra pas résoudre les problèmes qui sont les siens. Et toute la deuxième partie de mon livre, je prends agriculture, industrie, énergie, sécurité, immigration, sur ces cinq points fondamentaux, ceux qui nous disent qu'on peut changer, redresser la France en restant dans l'Union européenne, nous mentent. J'en suis convaincu. C'est pas possible. Et là, c'est l'enjeu même de 2027. C'est-à-dire, moi, je suis prêt à faire un débat avec Bruno Retailleau, que j'estime beaucoup au demeurant, hein, ou même avec Jordan Bardella, en leur disant...
Bah, vous expliquez quand même dans votre ouvrage que Bruno, finalement, tout ce qu'il a fait, ça n'a rien fait.
Non, j'explique qu'il a de bonnes intentions, que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup à titre personnel, qu'il a une grande culture et une intégrité, et qu'il pourrait être utile à la France, mais j'ai envie de lui dire, arrête de croire que tu pourras faire tout cela dans l'Union européenne. C'est incompatible, et ça fait 20 ans qu'on nous répète la même chose.
Oui, vous ne l'égratignez pas, lui, dans votre
ouvrage.
Non, parce
que je pense que c'est quelqu'un de grande valeur, donc ouais. Je ne veux pas égratigner des gens que j'aime bien.
Ouais. Alors, question de nos auditeurs.
Et puis, d'une manière générale, pardon, même si je pouvais égratigner X ou Y, je m'y suis refusé, vous l'avez vu, parce que je pense que ce n'est pas la hauteur de l'enjeu.
Alors, Sarah va nous lire la question d'un auditeur.
Alors, première question. J'ai voté dans le 19e... Pardon, excusez-moi, je vais un petit peu vite.
Oui.
J'ai voté dans le 19e arrondissement pour Charles Berbédé. Faisait-il partie de votre mouvement?
Il vous a soutenu, on l'a vu plusieurs fois
époque,
dans vos meetings.
J'avais aussi accueilli. Il était venu à un de mes meetings, vous avez raison. Et
on
devait être sur la liste de Sarah Knafo, je crois, à Paris. Et d'ailleurs, il y avait des gens de Debout la France sur la liste de Sarah Knafo. Parce qu'on m'a demandé, et j'ai dit, bah oui, bien sûr. Il faut vraiment que la classe politique, même souverainiste ou du moins de droite, prenne conscience que les plats ne repasseront pas plusieurs fois. Et que si en 2027, j'ai vraiment... Vous savez, ce titre, il s'est imposé pour moi comme une évidence, la liberté ou la mort. Et je me souviens que l'éditrice me disait, oui, mais c'est pas un peu osé et tout. Mais j'ai dit, mais c'est tellement évident. Il faut oser. Ah oui, mais si vous parlez de mort, est-ce que ça va pas être... c'est peut-être pas vendeur. Mais non, mais les Français sont des adultes. Moi, j'ai voulu les réveiller, là. Je fais pas un livre pour romance.
On a la pression.
Parce que j'ai vu qu'il y avait un livre de M. Attal qui nous expliquait qu'il voulait un enfant avec M. Séjourné. Moi, je m'en fiche. Je veux dire, là, moi, mon livre, il est fait pour comment on s'en sort collectivement.
Alors, autre question d'un auditeur.
Alors, ne pensez-vous pas que le maire et le personnel communal pourraient être contrôlés par une instance indépendante, se doter d'une charte nationale déontologique pour limiter corruption, fraude, clientélisme, etc.
Oh oui, ça, j'en suis d'accord. Mais les maires, bien sûr, mais en général, les maires corrompus ou frauduleux, ils sont vite virés par leur population, quand même, dans l'ensemble. Mais il faudrait qu'il y ait davantage de contrôle. Et puis, surtout au sommet. Parce que le poisson est pourri par la tête. Le problème, c'est que le contrôleur n'est pas contrôlé.
Oui, c'est sûr.
C'est ça,
alors,
le problème.
Justement, vous abordez dans votre ouvrage un certain nombre de personnages...
Et que la justice, pardonnez-moi,
oui.
Je finis mon raisonnement.
Oui, oui.
Et que la justice est toujours plus sévère avec un certain camp politique qu'avec l'autre. Au point d'ailleurs que les gens doutent. Et ça, c'est terrible.
Oui, alors vous les dénoncez justement dans votre ouvrage. Benalla... Qu'est-ce qui devient? Avez-vous des nouvelles?
Ah ben, Monsieur Benalla, il va très bien.
D'accord.
C'est curieux. Alors, je ne défends pas spécifiquement François Fillon, que j'égratigne un peu dans mon livre, mais au-delà de ça, Monsieur Lang a dû s'acheter des centaines de costumes aux frais de la princesse, mais Monsieur Fillon est tombé pour... C'est pas bien, pour un costume qu'un ami lui a offert. C'était pas le contribuable. Bon. Tout ça montre bien qu'il y a un vrai problème. Moi, je suis pour qu'on revienne à une opération main propre en France, mais une vraie opération main propre, parce qu'il y a un vrai problème de corruption.
Ah oui, vous parlez de...
Mais il faut que, pour la mettre en œuvre, cette opération main propre, il ne faut pas qu'elle soit à géométrie variable. Il faut qu'elle frappe tout le monde. Ça, c'est un vaste débat.
On apprend dans votre ouvrage, alors j'ai découvert que Christophe Castaner ait travaillé pour la multichinoise Shen.
Oui.
Écoutez, voilà, merci. Donc, c'est grâce à vous que j'ai appris ce genre d'informations.
Oui, cette gauche socialiste qui, après avoir été le plus mauvais ministre de l'Intérieur, est partie au service des plus grands pollueurs du monde et qui sont en train de liquider le secteur vestimentaire français. Voilà.
Extraordinaire.
C'est incroyable.
Alors, il y a Nicolas aussi dedans, dans votre ouvrage, Nicolas le complotiste.
Ah.
Le complotiste avec Notre-Dame, avec les gilets jaunes, avec le vaccin, bien entendu, aussi. Voilà, mais c'est terrible parce qu'il semblerait qu'à chaque fois, l'histoire vous donne raison. C'est un peu embêtant, ça.
Bah oui, c'est embêtant parce que pour le système médiatique français,
C'est
le
pas,
complotiste,
ça va pas.
C'est celui qui a raison avant les autres. Donc c'est un peu...
ouais.
Et je reviens là-dessus parce que j'ai tellement été sali sur cette histoire Notre-Dame. Et cette histoire des vaccins, que ça m'a vraiment fait beaucoup de peine.
Je voudrais relire vos propos qui ont été tant critiqués. Les Français veulent savoir si c'est un accident, une négligence ou un attentat. Il faut la vérité, car on nous a dit par une dépêche AFP que l'enquête serait longue, mais que déjà on savait que c'était un accident. Ça aussi, moi, je l'avais entendu.
Ah, mais c'est le texte
curieux,
exact.
Curieux, non. Voilà. Et alors là, on vous est tombé dessus à bras le corps. C'était raccourci.
Oui. Ah, mais c'était fou.
Oui.
Mais j'ai été insulté sur toutes les chaînes de télévision. Et des journalistes m'ont dit, on ne vous réinvitera plus jamais. Et je suis depuis invisibilisé, en partie médiatiquement.
En partie à cause de ça ?
Pas que ça, mais
bon,
ça a joué.
Il y a eu le Covid aussi.
Il y a eu le Covid, mais ça a beaucoup joué.
Ouais.
Et ce qui m'a réconforté, et là, c'est que le Figaro Magazine, et j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube là-dessus, le Figaro Magazine, qui est un journal respectable, entre guillemets, a sorti une grande enquête, il y a 8 jours, 15 jours, marquée « L'enquête impossible ». Notre-Dame de Paris, l'enquête impossible. Et ce qui est terrifiant et très intéressant sur notre pays, ceux qui m'écoutent et qui ont lu cet article du Figaro Magazine, ils envisagent toutes les causes d'accident.
Mm-hmm.
Et à chaque fois, de manière très subtile, ils nous donnent un argument nous disant que cet accident n'était pas possible. Vous voyez, le déboulonnage des statues, ça a été pris avec le chalumeau, et puis il y a quelqu'un qui a terminé,
que ça
etc.
a fermé plus tôt, vous expliquez.
Voilà, etc. Voilà. etc. Ouais. Attendez la suite.
Ouais.
Et à aucun moment dans cet article du Figaro Magazine, il n'ose aborder la vraie question que tout le monde se pose. Y a-t-il eu un attentat ou un accident intentionnel ? Mais, en même temps, il fait tout pour suggérer qu'il faut aller vers cette piste. Ça prouve que sept ans après, un grand journal français n'ose pas poser la question tout en la suggérant. C'est impressionnant,
ouais.
Quand même.
Je vous lis. Un homme d'un certain âge me reconnaît et m'interpelle gentiment. Il a comme moi les yeux embués de larmes, son regard soudain se durcit et il se présente. Je viens de prendre ma retraite comme tailleur de pierre. J'ai passé 30 ans dans cet édifice. J'en connais comme ma maison les moindres recoins. Il respire lentement, etc. Je passe. Je peux vous garantir, je cite ce monsieur dont vous citez les propos, je peux vous garantir avec certitude qu'il est totalement impossible de voir flamber ainsi une charpente de 800 ans, dure comme un béton sans l'ajout d'un produit inflammable. Je vous cite.
Oui, voilà. C'est cet
les
homme
propos que, vous avez,
que j'ai voilà. croisé sur les quais de Notre-Dame le lendemain où je venais pleurer comme tous les Parisiens.
C'était le lendemain, oui.
Et je l'ai croisé, c'est suite à cette remarque de cet homme que j'ai osé faire devant tous les médias qui étaient agroupés là, la déclaration qui était en rien complotiste, et qui était une déclaration minimum. Et d'ailleurs, l'article du Figaro Magazine est intéressant parce qu'il cite un ouvrier du chantier, parce que la restauration est fabuleuse et il faut remercier tous ces ouvriers, qui dit, et comme si l'auteur de l'article du Figaro avait voulu semer des petits cailloux pour nous obliger à réfléchir, sans le dire, qui dit pas un moment sur le chantier depuis l'incendie, je ne me suis posé cette question, qui a fait ça ? Voilà. Donc, voilà, il faut savoir.
Ouais.
C'est pas possible de ne pas savoir.
Ouais. Alors, il y a autre chose également, moi, qui m'a impressionné. J'avoue que j'étais dans la méconnaissance de cette histoire. C'est pour ça que je parlais de roman. Parfois, on a vraiment l'impression que c'est un roman, votre ouvrage. Vous parlez de votre déplacement au moment où vous a accusé d'avoir le Covid et d'aller tenir une réunion publique. Ah, j'ai trouvé ça, mais complètement incroyable.
Oui.
Mais c'est un montage total.
Oui, c'est...
Alors, j'explique à nos auditeurs qui, comme moi, vous vous déplacez et on vous accuse, les médias annoncent que vous avez le Covid et que vous tenez une réunion publique.
Que j'ai tenue.
Que vous avez tenu, pardon, une réunion publique en ayant le Covid. Alors vous essayez d'expliquer, non ? Vous transmettez même le test de votre femme pour montrer qu'elle a été négative. Mais on vous refuse tout droit de réponse. Si vous avez le droit à un droit de réponse à 23 heures, bon, évidemment. Et puis les autres, évidemment, ne reprennent
non, mais j'ai
absolument
eu l'honneur,
pas l'information.
Quand même. Il faut quand même raconter pour que les auditeurs voient ce qui se passe. Dans quel pays on vit J'étais pendant la crise Covid. J'avais refusé de me faire vacciner.
Oui, et vous avez toujours soutenu le professeur Raoult.
Oui, et je faisais donc très respectueusement des tests pour pouvoir circuler. Donc j'ai eu un nombre de tests dans le nez effrayant. Mais je les faisais, et ça me coûtait cher. Et je faisais mes tests avant chaque déplacement. Je devais aller dans les Vosges faire une rencontre avec la population. Je prends mon train, Je sors de la commission des affaires étrangères, je vais à la pharmacie, je fais un test négatif, je monte dans le TGV, je tiens ma réunion, je dors à Nancy, je refais un test à la pharmacie de Nancy avant de pouvoir reprendre le TGV dans l'autre sens. C'est une histoire de fou, mais bon, je le fais, comme tous les Français bien obéissants, puisque je ne suis pas vacciné. Et le test est négatif, j'arrive chez moi, ma femme me dit « je suis malade, je crains d'avoir le Covid ». Je lui dis « bon, eh ben on va faire un test, elle a le Covid ». Voilà, et puis j'ouvre la télévision, elle regarde la télévision, et on entend Christophe Barbier, sur BFM, me salir en disant « quand on pense qu'un élu de la République anti-vax se promène en France avec le Covid, les bras manteaux ». Comment ? Je n'ai pas eu le Covid, j'ai été testé, ma femme l'a eu, peut-être quelqu'un de mon entourage a parlé en disant la femme de Dupont-Aignan a le Covid, voilà, bon, mais j'avais fait les tests. Et donc, vous voyez ça à la télévision, et un bandeau, Dupont-Aignan tient des réunions publiques positifs au Covid. C'est-à-dire que non seulement j'étais le diable anti-vax, et j'étais l'homme qui répandait la mort. Mmh. Le Vosges Matin a titré le lendemain, Dupont-Aignan est venu diffuser le Covid dans les Vosges. Mais vous rendez compte, la salissure.
Oh, ça n'a pas été le pire.
Il a fallu...
J'ai découvert pire dans votre ouvrage.
Il a fallu que j'aille, que je montre. Les journalistes appelaient France 2, TF1. France 2 était correct, n'a pas diffusé la nouvelle puisque je leur ai envoyé le test. Et même le test de ma femme qui était négatif avant mon départ. Vous rendez compte où on en était ? Tout ça parce qu'il fallait salir un homme qui disait la vérité, que le vaccin ne servait pas à empêcher la transmission. Et d'ailleurs, ce qui est paradoxal, et c'est le professeur Delfraissy qui l'a avoué après, c'est que dès mars 2021, il avait prévenu Macron et Véran que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Et que donc tous les gens qui étaient dans les trains vaccinés, sans masque, ils passaient le Covid à tout le monde, puisqu'ils n'empêchaient pas la transmission. Bref, un mensonge d'État incroyable. Et comme j'étais l'un des seuls, avec Florian Philippot, à me lever contre cela, eh ben, il fallait m'abattre. Mmh. Donc, il fallait me salir. Voilà, c'est tout.
Même Libération, on a parlé, à ce que je vois. Antipas sanitaire, Dupont-Aignan a fait circuler le virus avant d'être testé positif au Covid-19.
Voilà. Oh. Ça a été partout.
Quelle histoire.
Partout. Partout.
Bon, ça n'a pas été le pire. Moi, j'ai vu pire dans votre ouvrage.
Oui. Il y a quoi ?
C'est cet humoriste dont je ne citerai pas le nom. C'est abominable.
Oui.
Abject. Abject.
J'ai perdu mon procès.
Contre lui ?
Oui, la justice m'a donné tort.
Alors, il faut expliquer à nos auditeurs.
Oui, c'est triste. Je ne sais plus comment il s'appelle, un humoriste. Quand j'ai soutenu Marine Le Pen au deuxième tour de 2017 et que ma mère est morte dans mes bras entre les deux tours.
Il a fait une plaisanterie.
Il a fait des blagues à la télévision en disant que ma mère était morte.
Que vous l'aviez tuée.
Que je l'avais tuée parce que j'avais soutenu Marine Le Pen. Ouais, c'est tellement...
C'est pas vrai.
Oui,
c'est abject.
Alors, j'ai fait un procès que j'ai perdu puisque les juges ont trouvé que c'était de l'humour. C'était tellement drôle que c'était normal.
Alors, à propos de procès,
non, mais c'est...
du coup, ça me permet de faire ma transition à propos de procès. Vous avez été poursuivi, mais je n'ai pas vu la suite.
Ah, par
Bruno Le Maire.
L'inénarrable Bruno Le Maire.
Alors, dites-nous tout.
Ah ben, je suis poursuivi toujours par Bruno Le Maire.
Pour autre, d'accord.
Parce que je l'ai accusé.
Ben oui, ben, citez, c'est amusant ça.
Ben, il y a une émission en pleine période de la crise énergétique.
Oui.
J'ai dit que Bruno Le Maire... était coupable de haute trahison sur le prix de l'électricité, puisque je crois que nos auditeurs savent bien maintenant qu'avec ce gouvernement, on achète de l'électricité éolienne à 198 euros le mégawatt produite dans la baie de Saint-Brieuc, et que le EDF s'est engagé pour des années, avec un indice d'indexation, à acheter cette électricité à 198 euros le mégawatt, alors que l'électricité nucléaire, au moment de la signature du contrat, était vendue à 42 euros. Aux fournisseurs d'électricité privés par EDF. Bon. Alors, admettons, même la Commission régionale, la Commission nationale de l'électricité estime que le coût réel de l'électricité nucléaire, en comptant la construction de nouvelles centrales, c'est 60-70 euros maximum. Donc, j'ai dit que c'était de la haute trahison d'installer des éoliennes en mer qui produisent une électricité trois fois plus chère, ou deux à trois fois plus chère, que ce qu'on produit déjà. Voilà, ce que Fabien Bouglé dit très bien depuis des années, ce que Bernard Accoyer, l'ancien président de l'Assemblée, ne cesse de dénoncer, Marion Maréchal, aujourd'hui j'ai vu un tweet là-dessus, ben non, ben, dire la vérité dans notre pays, C'est attaqué en diffamation, donc j'ai reçu une plainte en diffamation.
Et c'était la première fois que j'ai découvert ça.
Ouais, oui, vous voyez, je n'ai pas eu l'habitude d'aller devant les tribunaux.
Mais j'espère que là, vous allez y aller pour pouvoir dénoncer un peu les choses, ça va vous servir de tribune.
Non, mais c'est quand même, si vous voulez, toutes ces anecdotes, je les ai racontées. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'anecdote en soi, c'est qu'il y a d'autres personnalités politiques qui ont subi des avanies, je ne suis pas le seul.
Oui.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, dans notre pays aujourd'hui, il y a une inversion des valeurs. C'est-à-dire celui qui défend le bien est traîné dans la boue et celui qui fait le mal est adulé par les médias du système. Mmh. Et on le voit avec la commission à l'oncle sur France Télévisions. On le voit. Voilà. Et donc, il y a un moment, il faut dire la vérité aux Français, il faut se lever. Et si, pardonnez-moi, on avait été un peu plus nombreux à se lever, si j'avais été un peu moins seul dans l'épreuve, je pense que tous ces gens qui nous dominent et qui trompent les Français matin, midi et soir sur les grandes chaînes de télévision, seraient pas là aujourd'hui.
Je voudrais que vous juste simplement vous nous rappeliez Bruno Le Maire à propos de trahison. Où est-ce qu'il travaille aujourd'hui ?
Ah, je sais, dans un fonds américain.
Oui, voilà, c'est ça.
Dans un fonds américain,
après être passé en banque suisse, il est maintenant passé fonds américain.
Non, il n'était pas en banque suisse. Il voulait aller enseigner l'économie à Lausanne.
Ah, pardon.
Ce qui était pittoresque pour l'homme qui a endetté de plus de 1000 milliards la France, qui a écrit 7 romans quand il était ministre.
Mais qui allait mettre à genoux économiquement la Russie.
Et voilà. et si vous voulez...
Ah oui, vous expliquez. 5 années, 5 livres.
Oui, 5 années, 5 livres. Alors moi, j'ai écrit mon livre... J'ai mis un an et demi et j'étais pas au gouvernement, donc je sais que ça prend du temps.
Oui, ça c'est amusant, c'est quand vous l'avez rappelé.
Et des romans pseudo-érotiques d'ailleurs, en plus, il a écrit.
Ah oui, extraordinaire.
Donc, qui a endetté la France de 1000 milliards et qui veut donner des cours à la fac de Lausanne ou à une école de Lausanne. Mm-hmm. Ils l'ont gentiment éconduit et donc il se recyclait dans un fonds américain où je ne pense pas qu'il fasse que de la prose.
Ben oui. Voilà.
C'est-à-dire qu'il vend ses contacts,
bien
j'imagine.
Sûr. Oui, ou du conseil.
Du conseil.
Mais du conseil qui,
élégant.
Malheureusement, ne peut pas forcément servir la France, surtout quand on a un fonds de pension américain.
Alors, ce n'est pas un fonds de pension, c'est...
D'accord.
Vous retrouverez dans le chapitre, parce que j'ai vérifié.
Je ne me souviens plus.
Je ne veux pas avoir un autre procès en diffamation.
Bon, on ira regarder dans l'ouvrage, j'ai oublié, j'avoue.
Je ne sais plus où c'est dans l'énergie, c'est le chapitre sur l'énergie.
Oui, oui.
Haute trahison, on va voir, je vais vous le dire tout de suite, ce que je ne voudrais pas
C'est page 145, alors...
Est-ce que j'ai oublié dans... Je ne voudrais pas dire une bêtise.
Bruno le rigolo, ainsi qu'on le surnommait. Voilà. 9-1, haute trahison, les grands rendez-vous. Je vous ai... Bon, je...
On va le retrouver.
On le retrouvera. Voilà.
Mais il y a les chiffres. Hein. N'avance pas. Enfin, il faut que les Français sachent qu'aujourd'hui, ils donnent à peu près 12 milliards d'euros pour subventionner des éoliennes qui produisent de l'électricité 2 à 3 fois plus cher que l'électricité nucléaire. Mmh. Donc, on subventionne des producteurs pour produire de l'électricité trop chère. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. 12 milliards, ça permettrait de faire baisser le prix de l'essence, la taxe de 20 centimes au moins.
Oui.
C'est pas 25.
Moi, je voudrais revenir sur le côté un peu personnel. Mmh. Vous expliquez dans votre ouvrage... que finalement, quand vous avez perdu les élections législatives, curieusement, vous avez passé la chose, alors vous expliquez aussi psychologiquement comment vous fonctionnez, mais vous expliquez que finalement, vous avez vous n'utilisez pas ce terme-là, mais un certain recul par rapport à la situation.
Oui, j'ai eu beaucoup de peine, parce que c'est toujours une...
Oui,
c'était ma
peine,
première défaite locale.
Mais tout le monde, finalement, a été surpris de vous voir,
J'ai pensé à Charles Pasqua,
oui,
qui me disait toujours « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ».
Te rend plus fort, oui.
Et je me suis dit qu'il fallait faire de cette défaite une force. Bon, je ne dis pas que c'était facile, parce que c'est jamais agréable. Mais comme c'était lié à une trahison, que c'était en fait les LR, les fameux républicains, mm-hmm, qui s'étaient mis de mèche avec LFI. Bon, voilà, donc je ne pouvais rien. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai fait 80% un an après, dans la ville, pas dans la circonscription, mais bon.
Mais le plus triste dans l'histoire, c'est que moi, j'ai appris, je ne savais pas, c'est qu'il est le parrain de votre seconde fille.
Oui, c'était mon meilleur ami et le parrain de ma seconde fille, que j'ai
alors
tout
fait.
Alors,
je sais que vous l'avez formé en politique.
Oui, je l'ai même fait aider
élire,
à être élu, maire de Montgeron, puis
de
président
fille,
du conseil départemental.
J'étais choqué, là.
Ah ben oui, et il s'est présenté contre moi, il a même fait des tracts diffamatoires et Il s'est même entendu avec LFI pour faire passer LFI.
Extraordinaire.
Voilà. Ouais. Alors, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il est quand même carbonisé.
Oui, il a voulu un poste de ministre qu'il n'a pas
il
eu.
Il a été ministre.
Oui, mais
des
après,
transports
bon, voilà.
pendant trois mois,
ouais,
en
ça.
Récompense du scalp.
Non, ben voilà, trois mois.
En
donc,
récompense
voilà.
du scalp ouais. qu'il avait dû apporter.
Ouais.
Et puis, voilà. Mais si vous voulez...
Alors,
c'est pas grave. C'est ce que j'explique dans le livre. J'ai fait un effort sur moi pour comprendre que c'était lui que je plaignais, mais pas moi.
Oui, ben alors justement, Nicolas Dupont-Aignan, c'est ce que, quand on vous lit, votre réaction quand vous avez, finalement, vous n'avez pas été réélu, face à cette trahison, par rapport à toutes ces trahisons qu'on peut lire dans votre ouvrage, etc., on a l'impression que finalement, vous respirez d'avoir quitté tout ça. L'hémicycle, vous en parlez souvent de l'hémicycle, et des discussions qu'il peut y avoir, des trahisons, du côté défaitiste même d'un certain nombre de personnages. On a l'impression que finalement, est-ce que vous vous êtes pas mieux d'être de l'autre côté, je dirais, de la barrière?
Non, parce que je... Non, parce que...
Non, ça vous plaisait vraiment et vous regrettez?
Ah non, Non, si vous voulez, je pense qu'on peut servir son pays de plein de façons. Et moi, aujourd'hui, j'estime que la meilleure façon de servir mon pays, c'est de lui présenter un projet pour la présidentielle. Voilà, faut être clair. Mmh. Et d'être maire de ma ville, parce que là, je sers ma ville, j'apprends et je propose un projet pour mon pays. Et j'espère qu'un jour, on arrivera à redresser la France. Parce qu'il y a des choses, vous insistez sur les choses noires dans le livre, mais il y a des choses magnifiques. Et d'ailleurs, j'explique que j'ai pu surmonter tout ça parce qu'il y a des habitants fabuleux.
Oui, vous avez expliqué vos rencontres, vos différentes rencontres qui sont magnifiques.
Parce qu'il y a un mouvement debout la France avec des belles âmes,
oui.
Parce qu'il y a des Français, majoritairement, j'en suis convaincu, qui aspirent à autre chose. Donc l'enjeu, c'est qu'il faut, dans ce milieu politique où la mauvaise herbe l'a souvent emporté sur la bonne herbe, bah, il faut que les bonnes herbes s'entraident et travaillent ensemble et que le champ reverdisse. Voilà. Mmh. Moi, j'ai fait ce livre, si vous voulez, parce que c'est vrai que c'est un peu un livre d'étape, bilan quand même,
oui.
et d'étape. Un livre pour dire tout ce que j'avais sur le cœur à partir de mes expériences et comment je crois encore, vous voyez, c'est curieux,
mm-hmm.
je suis un infatigable optimiste, comment je crois encore que la France peut s'en sortir parce que les Français méritent mieux. Et j'ai voulu leur ouvrir les yeux. J'ai voulu, en fait, c'est un peu comme un oiseau qui est dans une cage. Le peuple français a été mis en cage. Et j'ai envie d'ouvrir la porte de la cage.
On a l'impression que vous avez plus de liberté depuis que vous avez quitté l'Assemblée.
Peut-être que
enfin, moi, ce que j'ai ressenti dans ce,
oui,
dans votre ouvrage.
Ouais. C'est peut-être que cette défaite à l'Assemblée m'a permis
de prendre du recul
ouais. et puis d'écrire. Et quand on écrit, ben on réfléchit. Et quand
oui.
on réfléchit, on est meilleur que quand on ne réfléchit pas. Quoi.
Ouais.
C'est tout bête.
Ouais.
C'est la palisse qui vous parle.
Ouais. Alors, deux questions d'auditeurs.
Deux questions. Alors, la première.
Alors,
donc, l'UE est devenu un état totalitaire dont a témoigné
Solzhenitsyn.
Oui. J'ai quitté l'URSS et je me suis réfugié en France et j'ai retrouvé les germes du système totalitaire que j'ai connu.
C'est tout à fait
malheureusement,
juste.
C'est vrai. Et l'autre c'est question.
Vrai.
Alors,
c'est
autre
vrai.
Question. Quel plaisir d'entendre M. Dupont-Aignan. Pouvez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, le titre de son livre que je désire acheter?
Nicolas Dupont-Aignan, 2027, La liberté ou la mort, aux éditions
Fayard.
Voilà.
Et il sort demain.
Alors, moi, je voudrais une petite, pour presque terminer notre échange, je voudrais que vous nous racontiez l'histoire de votre grand-père, que j'ai trouvé délicieux jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à son habitude au volant. J'ai trouvé ça m'a fait beaucoup sourire.
Ah. Mon grand-père était un des premiers aviateurs de la guerre de 14.
Ouais.
Et
parce
que moi, j'étais le petit dernier de mes parents, qui m'ont eu tard, à 40 ans, plus de 40 ans. Donc, les générations étaient...
Vous confiez beaucoup dans votre ouvrage, y compris sur l'histoire de votre père, des
oui.
relations avec votre père.
Oui.
C'est très touchant.
Et
alors, pardon, je vous interromps plus.
Et donc, mon grand-père était un héros de la guerre de 14, qui a été un des premiers aviateurs en 1915, de reconnaissance. Et je l'ai connu à la fin de sa vie. J'avais 13 ans quand il est mort, donc je me souviens bien des conversations à table. Et puis après, il a été descendu sur un avion en 17. Là, il ne se saluait plus entre aviateurs, il se combattait.
Oui, vous racontiez qu'autrefois, on se saluait entre aviateurs.
Au début,
ouais.
Il me racontait que les aviateurs allemands et les aviateurs français, en 14, 15... 1915 exactement, se saluait. J'ai encore la photo de son avion et de lui. Et puis en 17, il était là sur un bombardier, un avion où il se tirait dessus. Il a été abattu en vol. Il s'en est tiré miraculeusement.
Vous expliquez que le copilote va sur un bout de l'aile.
Un bout de l'aile, le copilote, le mécanicien va sur le bout de l'aile. Et j'ai la photo avec marqué, c'est sur cet avion que j'ai été descendu.
Donc, incroyable. Bon, ouais.
Voilà. Et puis un jour, je vais pas être trop long, un jour, je reçois un coup de téléphone à l'Assemblée nationale, par le standard de l'Assemblée, d'un monsieur qui me dit « Bonjour, vous êtes monsieur Dupont-Aignan, est-ce que vous avez un rapport avec un André Aignan ?» C'est peut-être quelqu'un de votre famille, parce que j'habite dans la Meuse, on est pour le centenaire de l'armistice. Donc non, la centenaire de la bataille de Verdun, c'était 2017, un peu avant 2017, donc 2016. Et nous avons un aviateur qui s'est écrasé dans le champ de notre commune, où il y a 200 habitants. Et cet aviateur s'appelle Aignan, je vous ai vu à la télévision, et je me suis dit, tiens, ce député-là, il a peut-être un lien avec mon type, et qui s'est écrasé dans mon champ, il y a un siècle. Et je lui ai dit, bah oui, c'est mon grand-père. Mais il me dit, c'est pas possible. Il me dit, mais c'est pas possible. Il était ému aux larmes, bah et oui, il m'a dit, est-ce que vous
génial.
Avez des souvenirs ?
Même vous avez dû
bah
être
oui.
touché.
Et alors, je lui dis, mais j'ai plein de souvenirs, j'ai une malle de photos, de photos et tout. Mais il me dit, envoyez-moi tout ce que vous pouvez. Et je vous invite, on va fêter le centenaire, il y a une exposition dans ce petit village sur cet aviateur. Voilà. Bon, donc j'y ai été, ça a été magnifique, très émouvant avec ma femme. Et c'était pendant la campagne de 2017. Et puis, quelques semaines après, 6 mois après, j'ai reçu un paquet. Et dans le paquet, il y avait une boîte en verre avec de la terre, du champ dans lequel il s'est écrasé et la maquette de son avion qui avait été faite,
qui a été refaite,
et un petit texte.
Ouais.
Incroyable.
Et cette maquette, cette terre de la Meuse, et cette maquette, je l'ai sur mon bureau, il ne me quitte jamais, parce que c'est comme ça. Et c'est, si vous voulez, ce qui est intéressant, je trouve, c'est la permanence du temps. C'est la France, c'est ça. C'est passer de génération en génération, un souvenir, une... Cet homme, cet aviateur, après a fait de la résistance pendant la guerre de 40.
Il n'a
jamais été décoré de rien.
Oui.
N'a jamais voulu de décoration, on lui a jamais proposé d'ailleurs.
Oui, vous expliquez
et
même que...
Il m'a toujours dit, quand j'étais petit, il m'a toujours dit, mais les décorations, non. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une décoration ? Alors, je ne comprenais pas, j'avais 12 ans.
Vous expliquez même qu'il s'évade pour éviter le STO, alors que tout le monde est raisonné.
Non, ça, c'est mon père.
Ah, c'est votre père, pardon.
Mon père.
Ouais.
Mon père m'a appris à toujours oser tout. Mon père
ne pas se résigner.
Il était chasseur alpin, il a fait la bataille de Narvik, et il a été fait prisonnier, et il était dans une prison à Rouen. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Il était avec tous ses camarades de cellule, et il leur a dit, moi, je ne veux pas aller en Allemagne. Et tous l'ont dit, mais le maréchal Pétain, il est gentil, et puis l'Allemagne, et puis tout ça, et tout ça. Lui, il a dit, moi, jamais. Il s'est évadé tout de suite, il a sauté par la fenêtre, il a piqué un vélo, est parti à la gare, et aucun de ses compagnons de cellule ne sont revenus vivants.
Ouais, ce que vous expliquez dans l'histoire. C'est une bonne leçon, quelque part.
Et bien, vous savez, quand vous avez... J'ai eu la chance d'avoir cette éducation, famille moyenne, mais cette éducation. Vous voyez ce
ne
que
jamais
je veux dire
se résigner.
Ne jamais se résigner. Et quand je vois les Français me dire c'est trop tard, on ne peut rien.
Vous voyez ce que vous expliquez,
ou
je ne vais pas voter, ce que vous disiez, monsieur, là, me... voilà, dans votre courage.
Il y a un chapitre là-dessus.
Oui, là-dessus, c'est pour ça que j'en parle.
Et ben moi, jusqu'à ma fin, je dirais c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Nos parents, nos grands-parents ont vécu des situations abominables. Ils se sont levés, ils ont été courageux. Et pourquoi les Français sont avachis ? Alors, pas tous, heureusement, hein. Mais il faut les réveiller. Donc,
c'est
bouquin,
ce que vous expliquez. Voilà, votre ouvrage, c'est pour ça.
C'est réveiller les gens. Quoi.
C'est pour réveiller.
Donc, c'est jamais perdu.
Ouais. Donc,
mais c'est quand même tard. Donc il faut se réveiller vite.
C'est urgent. La liberté.
C'est urgent.
2027, La liberté ou la mort, Nicolas Dupont-Aignan, aux éditions Fayard. La fin de l'histoire de votre grand-père. Moi, je veux votre grand-père qui conduit, là. Vous nous racontez ça.
Mon grand-père, il était fasciné par Concorde. Je me souviens, quand on était petit, il regardait Concorde à la télévision et il disait, tu te rends compte ? J'ai volé sur les premiers avions et je vais mourir. Mon rêve, ça aurait été de prendre le Concorde avant de mourir, mais il n'avait pas les moyens. Et alors, quand il conduisait, le seul danger, c'est qu'il prenait la ligne blanche comme la ligne du milieu, comme pour décoller.
Voilà. Donc, adoré quand j'ai lu ça.
À la fin, on lui demandait de pas trop conduire parce qu'il conduisait au milieu de la route. Il disait, mais la ligne blanche est faite pour garder le cap. Je dis, non, la ligne blanche est faite pour être à droite.
Extraordinaire. Bah écoutez, merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, cet ouvrage est destiné à provoquer un sursaut, à réveiller les Français, vous alerter sur l'importance de ce moment et à aller voter. Hein. C'est vrai qu'il y a tout ce chapitre sur ce monsieur dans le TGV qui vous dit, moi je vote, qui vous salue, qui vous reconnaît.
Ah, mais le nombre de gens qui viennent me voir dans la rue pour me dire, vous êtes formidable. Mais c'est bien ce que vous faites.
Voilà.
Alors j'ai dit, alors, vous avez voté pour moi? Ah ben non, mais non, moi, j'ai pas de carte d'électeur.
Ouais.
Alors ça, ça me rend dingue. Pardonnez-moi. Je me dis, mais... Et je lui dis à ce monsieur, je lui dis, mais alors venez pas me voir, on se décarcasse, parce qu'il y a beaucoup de gens bien dans la politique, contrairement à ce qu'on dit de femmes et d'hommes, élus de terrain, députés, sénateurs, il y en a des très bien, qu'on voit jamais à la télévision. Des gens bien. Mais aidez-les. Aidez-les. Vous vous lamentez, vous venez nous féliciter, et vous avez même pas votre carte d'électeur. Mais de qui vous vous moquez? De vous d'ailleurs, en premier. Vous voyez ? Donc c'est ça que j'aimerais qu'il change dans notre pays. Si le pays en est là, c'est aussi parce que les Français acceptent qu'il en soit là.
Mmh.
Donc il faut leur dire à un moment. Il faut leur dire...
Faut arrêter de se résigner.
Un peu comme on dit à quelqu'un, secoue-toi.
Oui.
C'est mon devoir de leur dire. Et c'est pour ça que j'ai voulu leur dire, vous voyez ? C'est parce que si moi je le dis pas, c'est pas ceux qui cherchent absolument là à être conformistes pour être élus qui vont leur dire. Hein. Ah ça, ils vont rien leur dire. C'est sûr. Leur voix, ils veulent leur voix, et après, bras d'honneur.
Oui.
Moi, je veux plus de ça.
Mmh.
Voilà.
Écoutez, moi, je recommande vivement votre ouvrage. Je l'ai lu avec un grand plaisir. Nicolas Dupont-Aignan, 2027, La liberté ou la mort. Dernière question, Nicolas, 2027, on vous verra comme candidat ?
Oui, si les Français le veulent bien.
Voilà, donc rendez-vous pris pour 2027. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan.
Merci,
merci à vous.
Édition Fayard, La liberté
merci
ou la mort,
2027.
Merci à Radio
Courtoisie, des derniers espaces de liberté.
Merci.
Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Thank you.
chers auditeurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau Libre Journal de la Vie Française, Libre Journal de la Vie Française, dont, pour lequel vous avez reconnu, vous venez de reconnaître mon générique préféré de, eh bien, la minute gourmande. Quand je dis préféré, c'est ma minute gourmande, évidemment, puisque je suis gourmand. Et donc, ben, je vais passer la parole à Sarah.
Bonsoir.
Bonsoir, ma chère Sarah. Alors, ma chère Sarah, tu as fait une découverte.
C'est ça. Alors, nous étions ensemble vendredi dernier au bistrot du sommelier de Philippe Forbrac, que nous saluons ce soir.
Philippe Forbrac, qui est
le meilleur sommelier du monde.
Voilà, et meilleur ouvrier de France honoraire, puisque c'est le patron des meilleurs
des
ouvriers de France
sommeliers. C'est ça.
Voilà.
Et nous avons rencontré une... Comment la décrire ? Une femme absolument superbe, Odile Couvert, qui a repris un domaine qui s'appelle le domaine Odilet. Donc, elle avait commencé une carrière dans la finance à Paris et elle a choisi de changer complètement de vie pour se lancer dans le monde du vin. Donc, c'est un virage qui est assez radical qu'elle nous expliquera par elle-même puisque c'est une histoire qui était assez amusante. Elle a créé ainsi en 2015 le domaine de l'Odilet. Donc, c'est un projet personnel et familial qui est né donc d'un véritable coup de cœur pour la région et donc pour ce métier. Donc, le domaine de l'Odilet, il est situé à Violaise, dans le Vaucluse, au cœur de la vallée du Rhône, face aux dentelles de Montmirail et du Mont Ventoux. Donc, créé en 2015, le domaine s'étend sur une quinzaine d'hectares, pour être plus précis, 17. Donc, il produit des vins en appellation Côte du Rhône, avec différents cépages, donc pour du blanc et pour du rouge. Donc, pour du rouge, du cépage Syrah, Grenache, tout ça. Pour du blanc, elle utilisait beaucoup de Viognier, beaucoup de Grenache blanc, etc. Donc aujourd'hui, le domaine est engagé dans une démarche environnementale avec une certification qui est donc bio, obtenue en 2020. Mais l'Odilet n'est pas seulement du vin, c'est aussi un lieu de vie. Et oui, avec des maisons d'hôtes au cœur des vignes qui permettent aux visiteurs de séjourner sur place de découvrir le domaine autrement.
Alors, ma chère Sarah, elle est avec nous.
Mais oui.
Notre chère viticultrice.
Odile, est-ce que vous m'entendez ?
Bonsoir.
Bonsoir Odile, comment allez-vous ?
Bonsoir, très bien, merci de m'inviter dans votre super émission.
Eh bien, c'est avec plaisir.
Alors déjà, c'était une très belle référence quand même d'être invité par Philippe Forbrac, c'est pas mal.
On a passé une super soirée, franchement, c'était formidable. Dans une simplicité, dans une certaine gaieté.
Convivialité.
C'était convivial, enfin moi j'ai vraiment adoré cette soirée. C'était une très très belle surprise.
Sarah.
C'est vrai que c'était exceptionnel. Par où commencer ?
L'Odilet. Pourquoi l'Odilet ?
Alors, pourquoi l'Odilet ? C'est parce que je m'appelle Odile. C'est tout simple. On a mis beaucoup de temps à chercher un nom pour ce domaine. Historiquement, je n'avais pas trop envie d'utiliser mon nom parce que mon nom est un petit peu connu dans un autre domaine qui est la finance. Et je n'avais pas trop envie, en fait, de réutiliser voilà, mon nom. Et puis, on a utilisé une agence incroyable, d'ailleurs, je peux la nommer, qui s'appelle Terre-Neuve, Sylvie Coulon. Elle est une femme extraordinaire. Et elle a beaucoup travaillé et finalement, elle a identifié Odile comme un symbole. Odile, c'est mon prénom. Et on est arrivé, après beaucoup de réflexions, sur l'Odyssée d'Odile, qui est devenue l'Odilet. Alors, c'est un très, très beau moyen mnémotechnique, tout le monde reconnaît. Et en fait, j'aime pas trop mon prénom, que je trouve un peu vieillot, mais l'Odilet, c'est formidable.
C'est vrai que c'est un nom qui parle. Et moi, j'ai une petite question pour vous, pour nos auditeurs. Vous nous avez raconté l'histoire de comment vous avez donc acquis ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous la raconter une seconde fois, si ça ne vous dérange pas ? Parce que l'histoire est vraiment très, très intéressante.
Avec plaisir. Alors moi, je ne viens pas du tout de ce monde. Alors d'abord, je suis lyonnaise d'origine et après, j'ai vécu 40 ans à Paris. Donc autant dire, la Provence, je connaissais finalement assez vaguement. Les Lyonnais souvent s'arrêtent dans la Drôme parce que les maisons sont un peu plus près. Et il s'avère que mon mari donc était originaire du Beaujolais, mais ses parents étaient partis à Avignon, donc il a été élevé à Avignon. Il avait une maison dans le coin et pendant très longtemps on y allait un peu, voilà, comme les Parisiens pour quelques vacances scolaires. Et vraiment à un moment donné, je me suis dit c'est trop beau cette région, il faut absolument qu'on trouve un endroit authentique. Voilà. Donc on a beaucoup cherché, on a mis quand même 5 ans pour trouver cet endroit. Et moi, je suis arrivée dans un endroit qui était complètement à l'abandon. Donc, c'était une vieille bastide, tout rouillée, tout abîmée. Les arbres étaient envahis de ronces. Les vignes étaient dans un état un petit peu lamentable. Et moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur et je me suis dit, cet endroit m'appelle, il faut que j'y aille. Voilà. Donc, ça a été une longue aventure parce que j'avais un budget un peu limité. Donc, j'ai mis quand même assez longtemps, plusieurs années en tout cas, pour convaincre la propriétaire qui était originaire du coin de me lâcher sa maison de famille, hein, parce que c'était la maison de la grand-mère. Et voilà, c'était pas du tout d'ailleurs une maison historiquement ou un coin où historiquement on faisait du vin. Pendant très longtemps, j'ai dit que les Romains, les papes, enfin voilà, la papauté, tout ça, c'était lié au vin. Et en fait, pas du tout. C'était une région qui était essentiellement peuplée d'arbres, c'était des grandes forêts. Le plan de Dieu, c'était parce que c'était des moniales qui avaient en fait une abbaye à Vaison-la-Romaine et qui allait souvent jusqu'à Orange. Et il fallait qu'elle traverse cette espèce de grande plaine qui s'appelle le plan de Dieu. Et il y avait un relais et elle priait Dieu pour arriver jusqu'à Orange. Donc c'était bombé de brigands et on n'est pas du tout dans les papes et les romains. Et ce sont finalement les pieds noirs qui sont arrivés dans les années 60, qui sont arrivés de Marseille et qui déjà évidemment cultivaient du vin et qui sont remontés et qui ont fait le gros travail de défrichage. Donc c'est une histoire un peu passionnante, à la fois historique, à la fois familiale et à la fois c'est un coup de cœur, une rencontre.
Exactement. Et donc vous aviez replanté vous-même des vignes sur votre domaine, c'est ça ?
Oui, alors quand j'ai acheté donc, une famille, donc cette famille de Sablais, avait déjà donc, un assez grand domaine, puisqu'il y avait plus de 100 hectares, entre Gigondas, Vaqueras, Le Plan de Dieu, Violette, qui est donc mon village. Ils avaient essentiellement des rouges, parce qu'on était dans une région historiquement de rouges. Mm-hmm. Donc on avait déjà planté des grenaches, des syrahs, des carignans. Et très vite, je me suis rendu compte que l'ouverture, c'était vraiment d'aller vers les rosés, vers les blancs, vers les pétillants. Donc j'ai planté des blancs. Donc j'ai planté 4 grands cépages, Grenache, Viognier, Roussanne et Clairette, qui sont les grands cépages de blanc aujourd'hui qui nous permettent de faire des bouteilles assez uniques. Et puis par la suite, j'ai planté des cinceaux pour faire des rosés un peu plus roses. Donc aujourd'hui, on a beaucoup agrandi le domaine, c'est certain.
Et donc aujourd'hui, vous produisez plus de blanc donc, sur la production globale ?
Alors, on ne produit pas plus de blanc, mais en tout cas, le blanc est en progression constante. Je crois que cette année, j'ai fait 15 000 bouteilles de blanc pour à peu près quand même 35 000 bouteilles de rouge. Donc le rouge prédomine, mais le blanc, il y a vraiment, vraiment, vraiment une demande de blanc. On en achète, on en plante encore plus. Là, j'ai des gros projets de plantation sur le blanc.
C'est vrai que pour l'avoir goûté, il était particulièrement très, très bon. Autre question concernant également vos cuvées. Donc vous avez choisi vos noms, il me semble, pas par hasard. Est-ce que vous pourriez également nous raconter cette petite histoire ?
Alors, quand on a démarré, évidemment, on n'avait déjà pas de nom de domaine, on avait encore moins de noms de cuvées. On arrive sur une page blanche. Et il s'est avéré que quand j'ai acheté en 2015, moi je suis née en 65, donc j'avais 50 ans. C'était l'occasion de faire une grande soirée familiale, amicale. Et j'avais invité un peu tous mes proches dans une maison qui était tout juste terminée. Donc c'était encore un petit peu enchanté. Et je cherchais désespérément, en fait, à l'époque, un nom de domaine. Donc, je n'étais pas sur un nom de cuvée et c'est avéré que mes amis, pour me faire plaisir, sachant que j'étais dans cette recherche, ont un peu brainstormé ensemble, d'ailleurs sans ma présence. Et il s'est avéré que sur les 200 personnes qui étaient présentes, j'ai eu à peu près 150 petits papiers où il y avait marqué « généreuse ». Et j'étais très émue, en fait, en dépouillant tous ces petits papiers. Bon, il s'avère que j'ai vraiment une nature assez ouverte, voilà. Et j'avais promis à tous ces gens qui avaient été là en leur disant « Je pense que la première cuvée, alors encore fallait-il la réussir, on l'appellera généreuse. » Et c'est de là où on est parti sur généreuse. Puis après, on a eu une talentueuse, qui est une deuxième cuvée de rouge, qui sont nos deux cuvées phares. Puis après, on a fait une syrah. On s'est dit « Bon, qu'est-ce qui est noir ?» On a appelé ça tempétueuse. On a fait par la suite une cuvée un peu 50% syrah, 50% grenache, mais avec... vraiment une cuvée très élite, très puissante, très profonde, on l'appelait impétueuse. Mm-hmm. Voilà. Et on est allé comme ça, petit à petit, sur les euses. Donc, on a la fugueuse, on a la prometteuse. Voilà, on est très inspiré par les euses. Et en plus, alors c'est un peu compliqué parce que souvent les noms se confondent, mais c'est vrai que nos clients sont habitués et à chaque fois d'ailleurs, quand on fait des salons, ils nous proposent des nouveaux euses. On a la tueuse,
c'est excellent.
On a la merdeuse, on a plein de vignes.
Et vous y songez à ces noms-là pour
voilà,
les prochaines ?
On va, encore faut-il trouver les vins qui vont avec, mais on n'est pas à court d'idées pour la suite.
Il y aura de quoi faire pour la suite, ça c'est sûr. Et vous avez aussi une cuvée, non, qui a un nom qui est un peu différent que les euses.
Alors après, on a beaucoup travaillé sur les 100%, enfin, sur les monocépages. Alors les monocépages... Normalement, en Côte-du-Rhône du Sud, puisqu'on a une grande différence d'appellation entre les Côtes-du-Rhône du Nord et les Côtes-du-Rhône du Sud, on ne peut pas faire des monocépages. La règle des Côtes-du-Rhône du Sud, c'est de faire de l'assemblage. Mais d'accord. Il s'avère que moi, j'aime beaucoup la Syrah, j'aime beaucoup la Grenache. On a des vieux carignans des années 60, justement, qui ont été plantés par les pieds noirs. Et on avait très envie de faire des monocépages. Donc, on a voulu mettre en avant, en fait, nos monocépages. Il s'avère que la règle en France, c'est que vous ne pouvez pas mettre le nom du cépage, si c'est un monocépage, sur l'étiquette de devant.
Mais on peut pour les autres pays ?
Je ne sais pas si je crois que c'est plus autorisé en fait dans les pays anglo-saxons, parce que souvent vous achetez une grenache, vous achetez un chardonnai.
Oui, c'est ça, mais c'est pour ça.
C'est-à-dire que moi, du coup, j'ai un peu essayé de déjouer la réglementation. J'ai appelé donc un certain nombre de cuvées qui sont des monocépages, le V de Viognier, le R de Roussanne. J'avais fait un petit jeu de mots sur le Carignan qui s'écrit avec un C, mais j'ai appelé ça le K de Carignan. Voilà. C'était l'idée, en fait, de mettre en avant mes monocépages, qui sont vraiment des cuvées un petit peu exceptionnelles, pour que les gens, dès la visibilité de l'étiquette, se reconnaissent.
Et c'est très bien pensé. Et bon, continuons du vent sur vos cuvées. Est-ce que vous avez, vous, une cuvée qui vous tient particulièrement à cœur, presque comme une signature de votre domaine ?
Je crois que la signature du domaine, historiquement, c'est quand même la généreuse. Alors, un, parce que c'est la première cuvée qu'on a fait en rouge. Deux, parce que c'est vrai que sur quand même maintenant 10 ans, c'est ce que j'appelle le Côte-du-Rhône parfait. Alors, c'est un petit peu prétentieux, c'est très arrogant de dire qu'on est parfait.
Vous pouvez.
C'est très français. Mais c'est vraiment une cuvée qui est dans l'équilibre le plus parfait possible, en tout cas, entre la grenache, donc qui est vraiment un fruit rouge, qui est vraiment un fruit très plaisant, très plaisir. La Syrah, qui est vraiment de l'épice, de la réglisse et du poivre. Et puis le Carignan qui ramène ce petit goût de griotte, de petite cerise. Et c'est vrai que la généreuse, en tout cas là, on est en train de la fin de la généreuse 2020, on va passer sur la généreuse 2024, on ne la fait pas chaque année. C'est vraiment une bouteille qui plaît beaucoup, qui est une cuvée très gourmande, très gouléante. Elle plaît au plus grand nombre, en tout cas. Elle est un budget, elle est à 17 euros, donc elle est encore accessible.
Oui, donc elle est accessible.
Voilà, et c'est vraiment la cuvée, je crois, un peu fétiche du domaine. Ce n'est pas la cuvée la plus prestigieuse. On a des cuvées qui sont un petit peu plus, on va dire, qui sont plus puissantes. Mais je pense que c'est la cuvée qui, en tout cas, a été le plus vendue depuis la création du domaine. Et c'est celle qui représente le plus ce qu'on attend d'un Côte-du-Rhône.
D'accord. Donc, c'est fait en assemblage. Au niveau de la composition, donc, c'est donc 3 cépages. C'est plus dosé en grenache, puisque c'est le premier que vous avez cité. Ou
alors, c'est vraiment un tiers, un tiers, un tiers.
D'accord.
Parce que, pourquoi je démarre par la grenache ? Parce que d'abord, quand on la goûte, on a d'abord le fruit rouge en premier.
Donc c'est ce qu'on
donc
sent d'abord.
Vrai, c'est le premier fruit rouge, voilà, c'est ce qu'on sent d'abord. On a l'épice, la réglisse qui arrive en deuxième. Et puis on a très vite une espèce de forme de complexité, de longueur. On a un petit retour en bouche avec ce petit rappel de griotte à la fin, qui est donc la présence des carignans. Et c'est vrai que cette cuvée, elle est vraiment très symbolique. Elle est, enfin, très souvent, les gens viennent me voir en me disant on veut regoûter la généreuse. C'est vraiment une tuerie, on l'appelle comme ça, et je crois qu'elle est vraiment très reconnaissable.
Ça nous met l'eau à la bouche. Et pour le blanc, vous avez une cuvée aussi que vous proposez particulièrement, que les gens préfèrent, avec le plus de retours peut-être ?
Alors, on a une cuvée qui nous plaît beaucoup. C'est une seule cuve en 3 versions. En fait, on a eu l'idée, au départ, moi j'aime, vous savez, que les Côtes-du-Rhône blancs, c'est souvent des Côtes-du-Rhône un peu gras, lourds, charnus,
c'est vrai.
Un peu épais. Je ne suis pas toujours très, très fan de ces vins, surtout l'été où on a envie de fraîcheur, on a envie de beaucoup d'acidité. Alors, je ne mets pas en cause ces très grands vins de la vallée du Rhône, hein, un grand Châteauneuf blanc,
bien sûr.
Ça reste majestueux. Mais...
Bien sûr.
Et moi, j'ai voulu faire une cuvée vraiment sur la minéralité, le côté très floral, minéral, très vif et très tendu. C'est une cuvée qui s'appelle la Prometteuse. Donc, c'est un assemblage de grenache blanc, de Viognier, de Roussanne et de Clairet, avec une demi-nante de grenache blanc. C'est au départ une cuvée qu'on ramasse très tôt. Donc, on charge vraiment ce côté très vert, très vif. Hein. Quand on le ramasse, le raisin n'est pas encore translucide. Donc, on est vraiment sur un raisin qui est en sous-maturité, qui est vraiment très vert. Et ça nous permet en fait d'avoir d'abord beaucoup moins d'alcool, donc on est jamais au-delà de 12 degrés, ce qui est bien pour nous. Ça nous permet d'avoir cette espèce de côté très vif, très tendu, très très vert, qui au départ dans la cuve est un peu imbuvable. Hein. Moi je l'appelle le pet citron, donc vous voyez, c'est pas très vendable au démarrage quand on vinifie, mais qui, avec la vinification, avec le temps, est un vin qui est vraiment très vif, fleur jaune, fleur blanche, avec une grande floralité et avec une petite amertume à la fin. Donc ça, c'est le côté minéral, hein, c'est vos pierres des calcaires qui ressortent dans cette cuvée. Et cette cuvée, donc, on en laisse un tiers dans la cuve inox, qui nous permet de faire cette fameuse prometteuse, qui est vraiment un vin délicieux à l'apéro, fruits de mer, les huîtres avec les petits ceviches, avec les crevettes.
On voit bien.
C'est vraiment
oui.
un vin qui est très très vif, que vous avez dû goûter, qu'on aime beaucoup. Là, en ce moment, c'est la période de l'asperge. Alors, cette cuvée, elle est formidable avec l'asperge. Cette cuvée, une fois qu'elle est vinifiée, on la sépare en trois parties. Il y a une partie qui va dans un fût d'acacia.
D'accord.
Alors, l'acacia, c'était une découverte. On a voulu garder cette cuvée très vive, mais tout en gardant, en lui donnant un peu de longueur, un petit peu de complexité, mais sans aller vers un toasté brûlé qui est souvent amené par les fûts de chêne.
Donc, c'est en fût neuf ?
Non, oui, c'est des fûts. Enfin, c'était au départ un fût neuf d'acacia. Et en fait, il y avait un maître de chêne qui venait d'Afrique du Sud et qui m'a dit un jour, mais tu sais, nous, en Afrique du Sud, on travaille beaucoup l'acacia. Ça va garder ce côté très vif, très tendu.
Intéressant.
Ça va donner de la complexité, mais l'acacia va donner ce petit goût crème brûlée, petit beurre et brioche. Donc,
c'est
cette deuxième cuvée s'appelle la soyeuse. C'est un super, super, une belle expérience. Et puis, cette même cuvée, donc toujours la troisième partie, on la met dans des fûts de chêne, et là, on a ce qu'on appelle la renversante. Pourquoi je dis que c'est intéressant? C'est parce que vous avez une seule cuve et trois versions de cuvée, avec vraiment des profils très différents.
C'est vrai que c'est très, très intéressant et c'est très bien fait, surtout. Alors, quelque chose qui m'a marqué qu'on a pu discuter ensemble, c'est que vous m'avez parlé d'un vin rouge que vous mettez un petit peu au frigo pour l'apéro.
Oui. Parce qu'en fait, alors comment expliquer? Au tout début du domaine, j'avais donc une équipe qui était évidemment très locale, très masculine aussi. Et c'est vrai qu'ils aimaient bien ce qui était très fort, très tannique, très puissant, très noir. Donc, la Syrah, chez nous, elle est beaucoup plus noire que la Grenache.
À la Côte du Rhône,
avec des bases de Syrah, voilà, très fortes. Et donc, on avait des vins, quand même, l'été, où il fait très chaud chez nous. Il peut faire jusqu'à 45, 50 degrés. On a envie d'avoir un peu de fraîcheur en bouche. Nos cuvées de rouge, qui étaient magnifiques l'hiver, elles étaient beaucoup moins, en tout cas, moins faciles l'été. Et c'est avéré que j'ai travaillé pendant 5 ans avec Marcel Richaud, qui est un grand, grand monsieur de Caran. C'est un domaine merveilleux et qui m'a appris à travailler d'abord sans soufre. Donc, ça a été une très grande expérience pour moi. Et il m'a appris aussi à travailler les mêmes cépages, hein, parce qu'on est toujours sur les mêmes terres, mais avec beaucoup plus de fraîcheur, beaucoup moins de tanin, beaucoup moins d'extraction. Et donc, grâce à Marcel, on est vraiment allé sur des vins plus fruités, peut-être un peu moins complexes, mais plus faciles à boire, plus agréables et surtout beaucoup plus abordable l'été. Et en effet, j'ai une talentueuse qui est un espèce de velours rouge, je l'appelle mon velours rouge, c'est un velours cachis mûr qui, moi, je le propose de le mettre au frais. Alors, on ne le met pas au frigo, l'objectif, c'est pas de casser le vin, mais on va le rafraîchir comme un rosé, on va le mettre dans une grande vasque de glaçons.
Un saut, ouais.
L'idée, c'est que quand il fait très très chaud, que vous êtes au petit barbecue et que vous avez envie d'un petit vin rouge agréable pour votre petite, votre barbecue, vous avez envie d'un vin plaisant, plaisir gourmet, mais qui n'est pas lourd, qui n'est pas tannique et qui n'est pas alcooleux. Et donc, le rafraîchir, je veux dire, ça va un peu faire baisser l'alcool, non pas au sens réel du terme, mais ça va... Le fruit rouge va arriver en premier, l'alcool va arriver après. Et c'est une belle découverte et nous, on le recommande vraiment comme un vin d'apéritif et de vin d'été.
Alors, rappelez-nous le nom, nos auditeurs.
Il s'appelle La Talentueuse.
La Talentueuse.
Alors, je voudrais, ma chère Odile, que vous nous rappeliez le nom de votre domaine, votre site internet, pour nos auditeurs qui voudraient en savoir déjà un petit peu plus et voir commander chez vous.
Alors, le nom du domaine s'appelle L'Odilé, c'est L'ODYLLE. Le site, c'est www.lodilé.com. Vous pouvez commander en ligne, bien sûr. Vous verrez, vous avez une rubrique « Mes vins », « Commander les lits ». Et vous pouvez cliquer et vous avez toute notre gamme. On a donc une gamme assez nombreuse. Et vous pouvez cliquer, mettre votre numéro de carte de crédit et vous aurez les vins dans les deux jours avec un système de livraison qui est très efficace.
Sarah, je voudrais que tu nous rappelles quelle est la bouteille dont j'ai demandé deux fois s'il en restait.
Oula. Le
moi
nom de la
cuve.
Oui, alors, la cuvée de rouge, tu sais, après j'ai dit...
C'était en 2018, le millésime, justement, ce qui changeait 2022.
Oui. Voilà.
Alors, le nom ne me revient pas.
Mais Odile va nous le donner, justement.
L'impétueuse.
L'impétueuse.
L'impétueuse, en quelle année ?
2018.
L'impétueuse, en 2018, je recommande à nos auditeurs, s'ils... franchement, c'était...
C'était un coup de cœur, celui-ci.
Ah ouais, un vrai, vrai coup de cœur avec un E, oui, avec un excellent, un E majuscule et cœur en C majuscule aussi.
C'est gentil. En fait, c'est une cuvée un peu exceptionnelle. On l'a fait que trois fois. On l'a fait en 2018, en 2021 et en 2022. Aujourd'hui, on a la vente à 2022. En fait, l'impétueux, c'est une cuvée qu'on fait quand on pense qu'on a une matière un peu exceptionnelle et que c'est le bon moment de la faire.
Elle
Donc
était.
En 2018, voilà, en 2018, celle que c'est vous avez goûtée, c'était un peu une, je dirais, un accident qu'on a eu en 2018 du milieu, hein, un peu comme partout en France. Donc, on a beaucoup, beaucoup perdu les grappes. Il s'avère qu'on s'y retrouve avec une récolte qui était beaucoup plus petite. Et au lieu de faire, on va dire, notre gamme traditionnelle depuis 2016 avec toutes nos cuvées, on s'est dit, on va regrouper toutes nos cuvées de rouge ensemble et on va essayer de faire quelque chose de différent parce qu'on avait très peu de volume. Et surtout, à cause du milieu, on avait des baies qui étaient très serrées. Et en effet, ça nous a permis de faire une cuvée un peu exceptionnelle que vous avez goûtée, donc qui était une moitié sierre à moitié grenache, avec des fûts déjà très fondus. Et en effet, elle a très bien vieilli, parce que là, on l'a goûté il y a quelques jours. Et elle a passé les âges, comme on dit.
Ah bah c'est vrai qu'elle était excellente et que tout le monde en demandait, mais malheureusement, on n'avait plus dans le stock.
Eh oui, voilà.
Alors, il me reste un fond à Paris, donc si vos auditeurs en veulent, qu'ils m'appellent vite, parce que je crois que, je sais pas, il reste peut-être une vingtaine de cartons. C'est un peu exceptionnel. En revanche, on a cette même impétueuse, on l'a fait en 2022, un petit peu dans les mêmes conditions. Et c'est une impétueuse qu'on a à la vente, qui est une cuvée, donc moitié sierre à moitié grenache, avec des fûts neufs, donc un petit côté boisé. Elle est très aromatique et elle plaît beaucoup. Donc là, elle est à la vente et vous pouvez la voir sur le site internet.
Alors, vous travaillez en agriculture raisonnée, mais ce que Sarah a indiqué, et je voudrais que vous nous donniez...
En bio.
Oui, oui, il y a les deux logos. C'est parce qu'il y a les deux. Vous avez mis les deux logos, c'est pour ça que ça me. Voilà, dans ma tête. Voilà. Je gardais l'aspect visuel. En bio, absolument. Je voudrais que vous nous rappeliez les prix. De quel prix à quel prix, sans rentrer dans les détails, on commence à combien
Alors, on commence à 12 euros. C'est notre rosé qui s'appelle la Fougueuse. On vient de sortir un nouveau rosé 2025, qui est juste en vente, là, qu'on vient de mettre sur le site. Et nos cuvées, et après dans les rouges, on est entre 15 euros la première cuvée, donc qui est la talentueuse, la fameuse qu'on peut mettre au frais, et jusqu'à 25 euros, la fameuse, et jusqu'à 30 euros, pardon, l'impétueuse. Et sur les blancs, on est entre 15 euros la prometteuse, qui est notre première cuvée un peu vive, jusqu'à notre Roussane, qui est notre meilleure cuvée, qui est à 25 euros. Voilà, donc on va dire qu'on est entre 12 et 30, et avec une grosse moyenne entre 17 et 25.
Parfait. Odile, vous nous rappelez le nom de votre domaine, le site internet, comment vous contacter avant qu'on ne se quitte.
L'audilet.com. Vous avez toutes les coordonnées du domaine. On fait beaucoup d'activités au touristique, on vous accueille, vous venez quand vous voulez. Voilà, l'audilet. C'est l'Odyssée d'Odile qui devient l'audilet.
voilà. Et donc, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'activités. Également, chambre d'hôte, bien entendu.
Vous avez des belles piscines.
Voilà.
Ah oui, avec une belle piscine, absolument.
Deux, mais il y en a deux, il me semble, non ?
On a deux grandes maisons.
Deux
grandes,
vous imaginez ?
Waouh. Voilà. Face au Mont Ventoux, c'est magnifique.
Venez avec vos amis, on fait des soirées de famille, on fait des soirées d'anniversaire, on fait des mariages.
Le cadre est magnifique.
Oui, oui.
Voilà, on est une belle terre d'accueil.
Alors moi, d'après les vidéos, vous êtes vraiment, on est en pleine campagne. Avec une vue sur, sur le Mont Ventoux.
Exactement, vous avez une belle vue. En fait, le plan de Dieu, c'est une grande plaine, où il y a la patrouille de France, d'ailleurs, qui s'entraîne. Et vous avez face à nous, les dentelles de Montmirail, et juste derrière le Mont Ventoux.
Merci beaucoup, ma chère Odile.
Merci beaucoup, Odile.
Merci, Sarah.
Merci à vous, Laurent.
Merci.
Et donc, merci ma chère Sarah pour cette belle découverte.
C'était avec plaisir.
Et merci beaucoup à la technique. Et chers auditeurs, eh bien écoutez, ça sera au plaisir de vous retrouver bientôt. Je rappelle l'ouvrage de Nicolas Dupont-Aignan que nous avons reçu, Nicolas Dupont-Aignan 2027, La Liberté ou la Mort aux éditions Fayard. Merci, à très bientôt.
Vous venez d'entendre le libre journal de la vie française dirigé par Laurent Poultier-Dimunil, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 21 avril 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.